Il a joué 20 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 6 buts, dont un mémorable face à Marseille qui restera dans le cœur des supporters. Cette semaine, nous recevons l'attaquant français Bruno Rodriguez. Bruno Rodriguez, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain ?
Ou du Paris Saint-Germain ou du stade ?
Alors, le stade, j'ai un petit indice. Je crois que tu as foulé la pelouse du parc. Tu étais très jeune.
Oui, j'étais très jeune. Je suis arrivé, je crois que j'avais 10 ans.
C'était en poussin.
C'est en poussin. On débarque de notre île, de la Corse, avec mon club. À l'époque, c'était Étoile Filante Bastiaise.
Je trouvais ce nom très joli, Étoile Filante Bastiaise.
Et c'est vrai qu'on arrivait de Corse, un petit club corse. Bon. Et puis, on est arrivé jusqu'en finale. Donc, les finalistes avaient le droit de jouer au Parc des Princes. Et ce stade m'a... je tombais vraiment en amour pour ce stade et depuis le Paris Saint-Germain.
Donc c'est par le stade, c'est plutôt pas mal. Quand on va accélérer, on passe des poussins directement à décembre 99. Oui, c'est une accélération un peu rapide dans ta carrière. Quand tu décides de signer au Paris Saint-Germain, tu sors d'une très grosse saison avec Metz. Vous avez été vice-champion de France. Tu te dis quoi ? Le Paris Saint-Germain, c'est un pari, c'est un risque, c'est un rêve ?
Déjà, je suis surpris parce que je reçois un coup de fil, je crois que c'était pour Noël. Mm-hmm. Donc, je reçois un coup de fil.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël, mais je croyais que c'était un canular, bien entendu.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai raccroché.
Ah oui, carrément.
Ah oui, parce que bon, le Paris Saint-Germain, pour moi, c'était... Oui. C'est un grand club, quoi. Donc, voilà. Et finalement, ça a avéré que c'était...
Non, monsieur, ne raccrochez pas.
Ouais, c'était le président qui m'appelait pour me demander si ça m'intéresserait de venir au Paris Saint-Germain. Bien entendu, j'ai dit oui.
Est-ce que tu considères que c'est un risque, à ce moment-là, que tu prends dans ta carrière ?
Non, pas du tout, parce que j'étais bien, je me sentais bien, j'avais confiance en moi, je me sentais capable d'aider le club parce que à l'époque il était en mauvaise.
C'est ce que j'allais dire, c'était pas une super période.
J'étais en mauvaise posture, donc je me sentais capable, et puis c'est ce qui s'est passé puisque j'ai aidé à ce que le club puisse se maintenir en première division.
Et tu signes pour 4 ans, c'est un vrai projet de vie en fait. Là, tu t'inscris dans.
Ben oui, parce que moi je croyais en ce projet, je croyais aux hommes, comme toujours. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé.
Et est-ce que quelque part dans ta tête, quand tu signes au Paris Saint-Germain, tu te dis « je signe dans l'ancien club de Georges Weah » ? Parce que je crois que tu as avec Georges...
Georges, il m'a pris sous son aile quand il est arrivé à Monaco.
Oui.
C'est un monsieur.
Oui, c'est un
monsieur. Georges, c'est un monsieur. J'adorais ce... En tant que footballeur, mais en tant qu'homme, par-dessus tout, c'est toujours un personnage.
Donc, ils sont comment tes premiers jours au Paris Saint-Germain ? Tu arrives donc en milieu de saison. Tu arrives en même temps que Michael Madar.
Oui. Ben moi, l'avantage que j'avais quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, c'est que déjà, j'avais déjà mon ami, mon frère, Jimmy Algerino.
Ah, Jimmy,
bien,
oui.
Bien installé. en patron. Et puis après, il y avait aussi Francis Yasser, avec qui j'ai fait pas mal de matchs aussi avec lui en équipe de France et dans un autre club, je ne sais plus lequel, Strasbourg, il me semble. Et donc voilà, donc j'étais plus ou moins accueilli correctement et assez rapidement. Quoi.
Et sur le terrain, ça se passe comment au début ? Parce que comme la période est compliquée, l'entraîneur, c'est Arthur Georges.
Oui. Donc, Arthur Georges veut me récupérer. Donc, OK, tout est OK. Mais sauf que, premier match, je crois que je rate un pénalty, il me semble. Bon, moi.
Ça arrive, oui.
Voilà, quoi. Mais on se fait éliminer de la Coupe de France. Mais ce n'était pas le principal objectif. Donc, à partir de là, moi, j'ai toujours été confiant. J'ai toujours eu confiance en moi. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de bons résultats, mais mais j'ai toujours été titulaire, donc j'ai toujours mouillé le maillot, je me suis toujours battu, et je pense que les gens et les supporters m'ont adopté, je pense, et ils me l'ont encore prouvé.
Oui.
Et cette générosité qui me caractérise.
Et quand tu arrives au Paris Saint-Germain, je disais, c'est pas forcément la joie, et c'est même pas la joie dans le vestiaire, et ça te choque. Ils sont tristes.
Oui, ils sont tristes, ils rigolent jamais, alors que moi, je suis toujours joyeux. Moi, c'est un plaisir. Le football, pour moi, c'est un jeu, on est entre copains. Ça reste. Moi, j'ai toujours fait ce sport par plaisir. Mm-hmm. Après, c'est sûr que c'est. Quand on commence à rentrer dans des grands clubs, c'est sûr qu'il y a plus de pression. Donc
tu l'as senti, ça, en arrivant à Paris?
Je l'ai senti, mais j'ai.
Sans en être victime, quoi.
Non, parce que moi, quand je rentrais sur le terrain, j'avais pas de pression, je rigolais, je chantais, je faisais le con. C'était peut-être ma façon à moi
d'enlever la pression.
Voilà, de m'enlever la pression, mais je ressentais pas de pression, non, pas plus que ça.
Et tu chantais dans le vestiaire pour les dérider un peu?
Ouais, je chantais encore ça. Donc Jimmy comprenait, mais bon.
Il y avait que Jimmy qui comprenait.
Et Marco Simone.
Ah bah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est pour revenir sur la saison sportive, Arthur Georges, il est remercié assez rapidement. C'était déjà le deuxième entraîneur du Paris Saint-Germain cette saison-là. Et il est remplacé par Philippe Bergerot. Et là, on peut se dire, le style de Philippe Bergerot, ça devrait être parfait pour toi.
Oui, parce que moi, je me suis de suite bien senti, même si avec monsieur Arthur Georges, pour moi, ça a toujours été,
il
m'a fait
bien,
confiance. Moi, je jouais, voilà quoi. Après, avec monsieur Bergerot, c'est passé quoi. C'est bien passé. Donc, on a réussi à faire de bons matchs, à gagner les matchs importants, notamment un match, je me rappelle d'un match à Auxerre, où je marque un but, et si on perd ce match-là, là, c'était compliqué. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que ma fille, toute la nuit, a eu 41 de fièvre. Donc, j'ai dû appeler le SAMU, SOS médecin, et tout ce qui s'ensuit. Donc, une nuit catastrophique.
J'imagine, avec le stress
et tout ce qui s'ensuit. Ma petite, parce que la priorité, c'est ma famille.
Oui, quand même.
Donc, le stress et tout ce qui s'ensuit. Le match, le stress du match aussi, parce que c'était un match il fallait vraiment le gagner, ce match. Et puis, finalement, on gagne 1-0 et c'est moi qui marque. Donc,
voilà.
Donc, voilà. Donc,
Ah, mais le stress, c'est bon, en fait. Mais bon, pas trop la petite fille malade, éviter.
Non, c'est sûr.
Tu as joué à plein de postes, d'ailleurs.
Oui. Moi, je suis un milieu de terrain, en fait. Et j'adore.
Alors, j'ai vu qu'on avait utilisé pour toi le terme de stopper. Pour les plus jeunes générations, c'est un peu compliqué parce qu'on l'utilise plus, ce mot-là.
Non, mais bon, moi, j'ai toujours été. J'ai toujours adoré le combat, le duel, mais le duel dans la correction, dans l'affrontement. D'homme à homme, pour aller se battre pour le ballon, pas d'insultes, une correction, quoi. Un respect mutuel. Pour moi, c'est ça, le sport.
Un peu comme on arbitre en Angleterre.
Voilà, un peu comme on arbitre en Angleterre, où on laisse jouer, c'est un sport de contact, donc il faut quand même qu'il y ait du contact. Donc moi, j'adorais ça, en tout cas.
Mais bon, alors, tu as joué milieu de terrain, mais je pense que les supporters du Paris Saint-Germain, s'ils ont une image de toi en tête, c'est l'image d'un but.
Ah oui.
Celui-là, il a beaucoup compté. Je pense que le parc te sera éternellement reconnaissant de ce 4 mai 99. Juste pour replacer, le PSG n'a pas gagné contre l'OM depuis presque 10 ans.
C'est ça.
Tu n'es pas titulaire.
Non. Il y a une raison. Parce que je ne dois pas jouer ce match. D'accord. Je suis blessé à ma cheville, donc.
Ok.
Ma cheville. Monsieur Bergerot me dit, Bruno, on va quand même te mettre sur le banc. Parce qu'on ne sait jamais si on a vraiment besoin. Mm-hmm. On ne sait jamais. Je dis, bon, ok.
Le PSG est mené 1-0.
C'est ça. On ne joue pas très bien, il me semble. J'ai plus trop de souvenirs, mais on ne joue pas très bien. Et puis Marco Simone marquait ce but magnifique aussi, parce que Marco, c'était un sacré joueur aussi. Et il y avait JJ Ochoa. JJ, c'était un phénomène. Et donc, moi, je crois que je fais un appel, le ballon ne m'arrive pas bien. Je crois que c'est Peter Luxin qui perd le ballon. Et donc Mika le récupère. Je fais un appel en profondeur. Ouais. Et il me lance en profondeur. Je fais un contrôle orienté intéressant. Et un
non,
petit
mais tu
crochet.
As le droit de dire un super contrôle orienté.
Et là-dessus, j'arrive devant Porato et je fais un petit crochet extérieur. J'ai plus qu'à la pousser et je montre ma fille.
Voilà. Et on était à la 87e minute et le Paris Saint-Germain s'impose enfin contre l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais sur le moment, en fait, tu ne réalises pas.
Non, je ne réalise pas, mais ce que j'entends surtout, c'est ce bruit d'un coup. Pour moi, c'était énorme. C'était énorme, c'est tout dans ce dont j'avais rêvé quand j'étais gamin. Tout ce passé-là, marquer un but dans ce stade.
Et puis, un but contre l'ennemi juré.
Voilà, donc c'était. Voilà, pour moi, c'était le moment parfait. Quoi.
C'est un moment marquant de ta relation avec les supporters.
Oui. Je pense que je suis estampillé Paris Saint-Germain, j'en suis fier. Grâce à ce but, oui. Il n'y a pas une fois où je rencontre quelqu'un qui aime le foot, un Parisien, mm-hmm. Qui ne parle pas de ce but, merci. Et j'en suis, quand on m'apostrophe sur ça, je suis aux anges.
Alors, il y a quelques jours, tu étais sur la pelouse du Parc, de retour, lors de PSG Ajaccio. Elle était forte, l'émotion de retrouver ce stade ?
Forte, mais beaucoup d'appréhension.
D'accord.
Ouais. Je ne savais pas comment j'allais réagir par rapport à mon amputation. Cette magnifique pelouse, parce que là...
Ah oui, là, je veux dire que sur celle-ci, il n'y a plus de poussins qui jouent.
Ah là, c'était fabuleux. Cette pelouse était extraordinaire. J'avais envie de jouer. Donc j'avais une appréhension, je ne savais pas comment j'allais réagir, le fait de rentrer avec une jambe en moins. Ben, finalement, j'ai passé un moment extraordinaire. Cette accolade avec Kylian, avec Messi, j'ai passé un moment fabuleux.
Alors on va y revenir sur ce qui s'est passé dans ta vie. On va juste terminer le chapitre Paris Saint-Germain parce que au bout des 6 premiers mois au club, on a le sentiment que tu as trouvé ta place, que tu vas débuter la saison 99-2000 tranquillement. Et pourtant, toi, tu as le sentiment de ne pas avoir le soutien de tes coéquipiers. Il s'est passé quoi ?
C'est pas forcément le soutien de mes coéquipiers. C'est, en fait, ce qui s'est passé, je suis parti à contre-cœur parce que j'ai des principes de vie. Mm-hmm. Moi, un homme, quand on vous fait une promesse...
Ah oui, il faut la tenir.
Il faut la tenir. Pas besoin d'écrire. Une promesse, c'est une promesse. Mm. Et puis on m'a fait une promesse qu'on n'a pas respectée. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus travailler avec des gens qui ne me respectent pas, qui ne tiennent pas leurs promesses, malgré leur inexpérience.
Mm-hmm. Et ça a été un déchirement de quitter le club ?
Oui, je m'en suis voulu tout le reste. Ma femme était aux anges, elle se sentait bien ici. Moi, j'étais où je voulais être.
Oui.
Et puis, à cause d'une personne... après, c'est mon caractère. À l'époque, j'aurais...
Entier.
Ouais, entier, mais j'aurais pu patienter, mais c'est comme ça.
Justement, on dit souvent de toi que tu as un fort caractère. En même temps, si j'en crois les gens que tu considères comme tes idoles, un Eric Cantona, un Che Guevara, c'est plutôt des gens qui ont des forts caractères qui t'attirent. C'est des ouais. références qui...
C'est des gens...
Avoir une colonne vertébrale, en fait.
C'est ça, qui ont des principes de vie. Qui respecte l'être humain. Voilà. C'est mon fil conducteur. Ma mère m'a élevé, nous a élevés avec mes 8 frères et sœurs, seuls, mm-hmm. pour aller travailler. Donc, elle m'a inculqué le respect des gens, n'importe quelle personne, toute hiérarchie confondue.
Tu ne reviendras pas finalement au Paris Saint-Germain après le prêt à Bradford, tu signeras à Lens. Et est-ce que tu considères que l'histoire avec le Paris Saint-Germain, elle est inachevée, elle est...
Oui, elle est inachevée pour moi. Mais
c'est comme un amour de jeunesse qu'on garde toujours ?
Oui, pour moi, oui. Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est mon amour de jeunesse. Oui, oui. Parce que j'adore ce club, j'adore ce stade, j'adore le football au Parc, j'adore le football parisien. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, oui.
Tu as donné beaucoup au football et beaucoup plus que certains. puisque tu vas nous raconter ton histoire. On le sait, il y a un an, tu as été amputé de la jambe droite. Oui. Et c'est lié, alors j'allais dire exclusivement, à ta carrière footballistique.
Oui. Ça a commencé, j'avais 17 ans. J'ai eu une entorse suite à un tacle. J'étais en centre de formation à Monaco, suite à un tacle. Donc, grosse entorse, on m'a refait les ligaments. Donc, à partir de là, ça a commencé, mes douleurs ont commencé. J'ai commencé à faire une petite infiltration pour jouer un match de Gambardella.
Est-ce qu'il y avait lieu ? À 17 ans, on faisait des infiltrations ?
Oui, malheureusement. Ouais. Donc, on m'a fait la première infiltration. Donc j'ai pu jouer, après par la suite je suis parti dans d'autres clubs et c'est...
Ça c'est pas comme mettre un pansement une
oui mais à l'époque justement où pourquoi j'essaye de me mettre en avant alors que je suis quelqu'un plutôt de réservé et j'aime bien rester dans mon coin pourquoi je veux me mettre en avant c'est pour justement que toutes ces générations qui arrivent prennent conscience que 10 ans de carrière il en reste quand même à vivre derrière.
Un bon petit bout.
Ouais. Un bon petit bout. Et ce que je veux leur dire, c'est que, justement, faire du sport à outrance et ne pas se soigner quand on est blessé ou se soigner mal, c'est prendre des risques pour plus tard et faire des mauvais vieux. Et puis voilà, donc moi, en ce moment, j'essaye de mais le danger avec l'infiltration, vous en faites une de temps en temps, pas de problème. Mais quand vous en faites toute une carrière. Beaucoup. Ça abîme, ça ronge le cartilage, c'est de la cortisone. Donc le danger, il est là. Et moi, ce que je regrette à l'époque, c'est qu'on ne m'est pas prévenu de tout ça. Parce que forcément, si on m'avait dit « Attention Bruno, tu fais oui, ça va te masquer, tu vas pouvoir jouer, mais attention, bon, c'est vrai que là, c'est l'extrême. Je suis à l'extrême. »
Oui, mais...
Mais, en attendant, je connais beaucoup d'anciens, mais toi aussi, qui ont des douleurs, oui. Qui ont des machins, donc on fait de mauvais vieux. Le sport à outrance, c'est dangereux, quoi. C'est pas anodin, quoi.
Le sport de haut niveau, c'est une source de stress, c'est une source de douleur pour le corps.
Eh ben oui.
S'il n'y a pas la récupération, s'il n'y a pas le...
Il n'y a pas la récupération, s'il n'y a pas, justement, prendre le temps pour se soigner, mais pas se soigner, accélérer le soin. Non, il faut laisser le temps au temps.
Mais il y a des... La question de l'infiltration, est-ce que c'est quelque chose, une question qu'on vous pose? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est...
Non, on vous parle de l'infiltration, mais on ne vous explique pas ce que c'est à l'époque. Mm-hmm. Moi, je suis footballeur, hein, je suis pas... Je me suis arrêté.
Oui, mais est-ce que c'est pas
je me suis arrêté au CP, moi, à l'école. Hein, donc, donc, voilà, le truc, il est là, c'est que nous... Il y a des gens pour expliquer qui ont fait. Il faut qu'ils expliquent. Et après, c'est au joueur, à la personne, de faire son choix en connaissance de cause. Ben, soit je prends le risque, soit je ne le prends pas. Mais quand on ne vous explique pas, moi, j'en veux à personne, attention.
Non, mais.
Moi, j'en veux à personne. Ce que je veux dire, c'est que.
Là, maintenant,
il faut que les gens prennent. Voilà, oui, prennent les instances du football, du sport en général. Il faut arrêter de se voiler la face.
Oui, du sport en général,
voilà.
Ouais.
Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Moi, c'est voilà pourquoi j'essaye de me battre maintenant. Parce qu'en
est-ce que c'est les douleurs qui t'ont poussé à l'amputation? Enfin, il faut prendre conscience que oui, les douleurs étaient telles.
Oui, parce que bon, donc j'ai joué toute ma carrière sous infiltration et machin, régulièrement.
À la cheville.
Et j'ai dû m'arrêter à 32 ans suite à encore une entorse. Et là, que j'ai pas pu revenir. Là-dessus, j'ai eu 12 opérations sur 17 ans. Donc une souffrance en permanence. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus sortir. Ma femme devait s'occuper de moi. Ma dignité d'homme a été...
Plus pouvoir bouger alors qu'on a été sportif donc, de haut niveau, c'est compliqué.
Et très honnêtement, je vous le dis, j'ai pensé au suicide parce que je ne pouvais plus vivre comme ça. Du moment que les médecins m'ont dit « il n'y a plus rien à faire », j'ai dit « alors qu'est-ce qu'on fait ? Je me jette par la fenêtre, qu'est-ce que je fais ?»
Il n'y a plus rien à faire.
Donc il n'y a plus rien à faire. Donc il faut garder la douleur, rester sous cacheton, et qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et c'est vrai que là, j'ai pris cette décision forte, Mais moi, ça a réussi, je suis content, je reviens, psychologiquement, je remonte la pente. C'est pas facile, je suis toujours suivi, parce que le problème aussi, c'est que en tant que sportif, on se dit, de haut niveau, on se dit, ouais, non, moi, je vais m'en sortir tout seul.
Il n'y a pas un moment dans ta carrière où tu t'es dit, on arrête les infiltrations et je me soigne ?
Non, il y a plein de fois où je voulais arrêter ma carrière.
Ah oui, oui, carrément à cause de la douleur.
Ah oui, oui, plein de fois, hein, plein de fois. J'ai pensé à arrêter, mais bon, la passion est toujours là. J'adore ce sport, donc... C'était difficile, donc j'ai poussé mon corps jusqu'à l'extrême, oui.
En fait, on a appris ton amputation par Jimmy Algerino, qui est bon, on va pas présenter Jimmy, je pense que des Jimmy Algerino, il y en a pas beaucoup, ni dans le football, ni dans le monde en général. Mais justement, dans le football, il n'y a pas eu beaucoup de Jimmy Algerino pour te soutenir, pour t'écouter, même au... Je ne vais pas aller jusqu'à écouter, je vais dire juste entendre.
Non, Jimmy, déjà, bon, je veux dire que Jimmy, c'est une personne extraordinaire. C'est un ami et un frère pour moi. Je le considère réellement comme mon frère. C'est une amitié de 30 ans, donc c'est pas rien. Et Dieu sait que dans ce milieu, avoir des amis, c'est pas évident.
Non.
Et ouais, Jimmy, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est généreux. Il pense faire du bien autour de lui, donc il pense qu'à ça, en fait.
C'est vrai.
Et c'est vrai que dans le milieu footballistique, oui, j'ai eu 2-3 appels, mais ça a été toujours ponctuel. Mm-hmm. C'est juste le moment où, ah ben oui, on a appris que... Mais un suivi, comme l'a eu le Paris Saint-Germain ou... Parle bien entendu de tout le monde, c'est toujours
pareil. Parce que tu parles du Paris Saint-Germain, c'est vrai que tu es resté 6 mois au club. Et alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'hommage le plus important, il a été réalisé au Parc, en fait.
J'en ai eu qu'un d'hommage.
D'accord. Ok, bon, ça c'est clair au moins.
Pour moi, c'est clair, non ?
Mais parce qu'en fait, on s'attend à ce que... C'est une histoire qui est tellement forte... qu'il faut, comme tu le fais très bien, la partager. C'est le rôle aussi des instances de partager et de se dire, bon, peut-être qu'il y a un problème, il faut s'interroger.
Bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Oui, non, c'est sûr.
Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, ce que je regrette, sans tirer sur l'ambulance, moi, ce que je regrette, c'est que on ne décide pas aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes et on essaye de véhiculer tout ça. Arrêtons de prendre les sportifs de haut niveau, les presser pour que, tirer un maximum d'eux et puis après, on s'en fout de ce qui va se passer, la vie que tu vas, parce que tu gagnes de l'argent. Non, je suis désolé, nous sommes des êtres humains, quoi. Mmh. Donc il faut quand même prendre soin de la personne.
Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui... Enfin, on commence à médiatiser un peu plus ton histoire. Il n'y a toujours pas une volonté, je ne sais pas, de la part de certains clubs, ça peut être ou de la fédération ou de la part de la Ligue, peut-être te donner un rôle, alors je ne sais pas s'il doit être officiel, mais en tout cas, partager ta parole dans les clubs.
C'est ce que je souhaiterais, en tout cas. Pour l'instant, il n'y a rien... J'ai pas de contact, mais c'est ce que je souhaite, et c'est ce que je souhaite vraiment, c'est faire partie de, mais très officiellement, moi je l'affirme,
ouais.
Très officiellement pour prévenir, passer dans le football, mais dans le monde sportif en général, professionnel comme amateur, de servir de mon exemple de sportif, avant tout, mais aussi de sportif amputé, handicapé maintenant. Donc voilà, moi j'aimerais bien servir d'exemple et pour la jeune génération, pour que ça ne se reproduise pas.
Parce qu'on a, le sentiment qu'il y a une libération de la parole sur la pression qu'on met sur les sportifs mentalement. Et c'est vrai que leur premier outil, c'est quand même leur corps. Et on a le sentiment qu'on ne parle pas beaucoup de la pression qu'on met, le stress qu'on inflige.
Oui, et justement, hier, je parlais avec Gaël, le rugbyman, Gaël Ficou. Je parlais de ça avec lui, et qui en a parlé bien, très bien. L'aspect psychologique est très important. Mm-hmm. Et justement, il disait qu'il serait presque normal, entre guillemets, qu'on puisse faire venir des psychologues. Et je suis d'accord avec lui parce que dans une carrière, on a des hauts et des bas, on a et forcément, on a des petits moments de dépressifs.
Oui.
Et c'est comme si on avait honte de le dire.
Mais
l'efficacité, c'est important.
Bien
donc,
sûr.
L'efficacité de ces gens-là qui vont pouvoir vous donner un bien-être ou recadrer un peu les choses, parce que bon, ça n'est que du football, hein. Faut recadrer les choses quand même, hein. Donc, à partir de là, moi, l'aspect psychologique est très important parce que je sais que ça m'a fait du bien.
Oui, mais on commence à en parler. Il y a beaucoup de sportifs qui sont toujours au milieu de leur carrière ou certains anciens sportifs qui en parlent. Mais j'ai le sentiment qu'on ne parle pas beaucoup de ce que le sport abîme sur le corps. Alors, le besoin psychologique, on en parle, mais ce que le sport abîme sur le corps, et comme tu le dis, ça fait des mauvais vieux.
Ben oui.
Mais excuse-moi, mais t'es pas très vieux, en fait.
Non, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. En fait, on a une carrière de quoi, 10-15 ans. 10-15 ans, mais après, il y a tout le reste. Si on a... Oui, on a gagné un peu d'argent, pour ma part, un peu, parce que
c'est pas la même époque.
Mais ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'on fait derrière? Si on peut pas marcher, si on peut pas profiter de ses enfants, j'ai pas pu profiter de mes enfants. Donc, j'ai pas pu jouer avec mon fils.
Mmh.
Donc, c'est quoi le but? C'est oui, j'ai joué au football et après, pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est oui, le football, c'est un plaisir, un réel plaisir, c'est une passion, ok, mais pas de là à s'esquinter, à être amputé, à marcher, à boiter, ne plus pouvoir se lever parce qu'on a mal au dos. Pour les gardiens, les épaules, enfin, voilà, pour moi, c'est on tire trop sur la machine, quoi.
Alors, on va terminer sur une note positive pour PSG Ajaccio. Tu étais sur la pelouse du Parc des Princes, on l'a dit. Il reste quoi au fond de toi de rouge et bleu?
Moi, au fond de moi, c'est cette passion du football, de ce terrain vert là, que j'ai vu. Là, je me suis revu comme si j'étais un gamin. À 10 ans, je me suis revu. Franchement, je me suis revu à 10 ans. Ça m'a fait une émotion exceptionnelle. Et puis, de voir que les gens au PSG m'ont accueilli les bras ouverts, comme ils l'ont fait. Je parle de tout le monde, de la présidence, comme des gens, comme vous, tout le monde travaille. On m'a accueilli, franchement, c'était exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ça. Le public m'a... je voudrais les remercier et leur dire de surtout continuer à aimer ce club, à supporter ce club et voilà, et vous dire que je vous aime, quoi.
On espère que ce sera une belle caisse de résonance aussi pour ton combat et le message que tu veux transmettre.
Ben oui, c'est un peu le but. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ces confidences, Bruno Rodriguez.
Merci à toi.
Merci. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.